Bonsoir et bon début de semaine à tous. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette émission. Situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu, puis de processus de Luanda et de Nairobi, à quand la sortie du gouvernement? Que retenir de la visite du président Félix Tshisekedi à Paris? Affaire Cardinal Ambongo, vie chère, corruption, détournement, banditisme urbain et bien d'autres questions. Nous en parlons ce soir dans ce spécial dialogue entre Congolais avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyeya. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capitale.
Vous êtes tellement nombreux à envoyer, je voulais dire, vos réactions et préoccupations. Nous ferons un effort de les lire et voir si possible de vous mettre en ligne pour que vous puissiez poser directement vos questions au ministre qui est avec nous dans ce studio à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Vous nous suivez sous la 95.8 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur Canal+, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Monsieur le ministre Patrick Muyeya, avant de nous d'entrer dans le vif de notre émission de ce soir, rendons-nous d'abord au Nord Kivu, où des violents combats ont opposé toute la journée de ce lundi les rebelles du M23, l'armée congolaise et ses alliés locaux dans plusieurs localités du territoire des Masisi. C'est notamment autour de l'agglomération de Katale à environ 10 km du chef-lieu du territoire, ainsi qu'autour de Luke et ses environs. Là, c'est à cheval entre le groupement de Oufamandou et le secteur de Osso Banyungu. Voilà. En plus des conséquences humanitaires, ces combats affectent les activités scolaires, déplore le président de la jeunesse Tembo au Nord Kivu. Il parle notamment des élèves finalistes du secondaire dont la passation des épreuves préliminaires de l'examen d'État a été perturbée. Kibuya Kaima Donasia, joint ici par Bernard Nyangi.
Ce lundi, des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans le village Katoto près de Luke, ainsi qu'à Kabingu et Kuirambo, c'est à cheval, entre le groupement Oufamandou 1er, chefferie de Baoundé, et Nyamaboko 1er, secteur de Osso-Banyungu. Nos sources locales indiquent qu'il s'agit d'accrochages opposant les rebelles du 1-23 aux groupes armés locaux. Elles informent que c'est la suite de ces combats qui ont commencé ce week-end. Et conséquence, plus d'une dizaine de villages de la zone sont à présent vidés de leur population, précise le président de la jeunesse Tembo du Nord Kivu, Kibuya Kaima Donatien.
La population du groupement Oufamandou 1er se vide de leurs milliers. Les gens de Miano, Kashukano, Burora, Kirundu et Remeka se dirigent vers Walikale et Ziralo, d'autres vers Biriko. Les enfants qui faisaient les examens préliminaires se sont aussi éparpillés. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement de voir comment mettre fin à cette situation parce que la population est en train de subir une souffrance.
Rappelons que depuis plus d'une semaine, les rebelles du 1-23 accaparent progressivement plusieurs villages dans cette zone de dégroupement Mufuni, Oufamandou et Boabo, au sud du territoire de Masisi, ce qui, selon nos sources, menace même le chef-lieu du territoire. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Merci Bernard Nyangi pour ce reportage. Patrick Muyeya, porte-parole du gouvernement. La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, toujours préoccupante. Vous avez d'un côté la rébellion du M23, de l'autre la rébellion. Vous avez les EDF, voilà, qui tuent, massacrent la population dans le Petit Nord, c'est-à-dire dans toute la partie du territoire des Béni. Qu'est-ce qui manque au gouvernement pour rétablir ou restaurer la paix dans cette partie de la République?
Plutôt Grand Nord, dans la partie de Béni où il y a les ADF. D'abord, il faut dissocier les deux questions. La première question, moi je ne souhaite plus que vous parliez du M23, parce que le M23 en réalité n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'armée rwandaise qui opère sous le couvert du M23. Cela a été plusieurs fois démontré et cela doit être bien clair. Et vous savez, Madame Kelly, je suis justement à Radio Capi, ça fait plus de 20 ans, justement, qu'il y a un travail qui est en cours, qui s'est fait, pour pouvoir restaurer la paix dans cette partie du territoire. Il y a eu des progrès, mais il y a eu beaucoup de régressions, parce que lorsque vous regardez l'attitude, cette nouvelle agression rwandaise qui s'est faite sur fond d'une guerre économique, on va peut-être reparler notamment de l'occupation de Rubaya, ça vous donne une indication des véritables motivations. Le président de la République l'a dit et redit plusieurs fois, et les gouvernements y travaillent au quotidien pour pouvoir apporter des remèdes aux différents problèmes que cela soulève. Il faut dire qu'il y a le problème principal qui est le problème lié à l'agression, mais il y a de problèmes corollaires, par exemple la situation humanitaire, les conséquences sur la scolarité des enfants et bien d'autres d'ailleurs malheurs qui s'y rattachent. Pour chaque point, le gouvernement travaille à apporter des solutions, mais bien évidemment que les solutions que nous apportons à l'instant ne seront jamais suffisantes, par exemple pour les populations qui sont déplacées, parce que ils ne sont pas dans leur milieu ordinaire où ils peuvent vaquer à leurs occupations quotidiennes.
Ce discours a entendu depuis la chute de Bounagana, monsieur le ministre.
J'en arrive. Ça, c'était dans la partie Nord-Kivu, tout au moins pour la partie qui concerne l'agression rwandaise. Pour ce qui concerne les ADF, c'est un autre type de problème, parce que là, c'est des groupes terroristes qui ont fait allégeance avec Daesh. Nous les combattons en mutualisant nos forces avec l'Ouganda. Nous faisons de progrès, mais bien évidemment, lorsque vous combattez un mouvement aussi tentaculaire qui existe depuis des années, chaque moindre signe rapporté, parfois ça vous donne l'impression qu'on n'a pas des progrès, mais en réalité, nous en avons beaucoup eu. Vous devez regarder, il y a une ou deux semaines par là, le chef d'état-major de notre armée a rencontré son homologue ougandais pour faire le point de l'évolution de ses propos. Alors, tout à l'heure, vous aviez dit que ça fait depuis Bounagana. Ici, je vous dis, nous faisons face à une agression. C'est un pays étranger qui a décidé de faire la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, le problème, nous sommes en train de le régler. Mais pour le régler, il y a plusieurs phases. Il y a évidemment la phase la plus importante et qui a un coût important, c'est la phase militaire. Parce que vous avez le coût humanitaire, vous avez les coûts que cela peut engranger sur les quotidiens des populations. Et nous sommes engagés, il ne faut pas oublier que nous n'évoluons pas comme une entité isolée, nous évoluons dans une communauté des nations. Nous sommes engagés dans des processus. Et la première condition généralement dans des processus, on vous dit nous observons un cessez-le-feu pour voir comment nous pourrons discuter et avancer sur un certain nombre de sujets. Parallèlement à cela, nous ne baissons pas le bras pour ce qui concerne les efforts, notamment pour la montée en puissance de forces armées. Ça prend du temps, mais c'est un processus qui est en cours. Et peut-être que si vous avez suivi récemment, il y a des progrès qui ont été faits, notamment sur terrain, à Bitonga par exemple, où on a anéanti quelques colonnes ou une escorte des officiers rwandais qui circulaient dans cette partie. Ça prend du temps, c'est fatigant, mais nous pensons que nous sommes dans la voie qui va nous conduire à sa solution. Et nous ne restons pas que sur ce plan militaire. Nous avons le front diplomatique, nous y reviendrons. Nous avons, nous, pensé qu'il faut activer aussi le front judiciaire, parce qu'il n'y aura jamais des garanties de non-répétition si les mêmes que recycle le gouvernement rwandais ne sont pas arrêtés ou traduits en justice. Nous avons les fronts économiques. Vous avez vu par exemple l'action que nous avons, la mise en demeure que nous avons adressée contre Apple, qui concerne à la fois les volets judiciaires, le volet économique et le volet médiatique. Et évidemment, nous avons la question médiatique qui fait qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont conscients, ils savent qui est l'adversaire. Et pour le reste, madame, c'est un travail sur lequel nous travaillons au quotidien. Et nous espérons que dans un avenir proche, nous pourrons trouver une solution. Il ne faut pas oublier que c'est un problème qui existe depuis une vingtaine d'années et que l'implémentation ou la solution à trouver ne peut pas se faire malheureusement sur un coup de bâton magique.
Alors, selon vous, sur le front militaire, il y a des avancées significatives, monsieur le ministre, mais entre-temps, il y a plusieurs localités qui continuent à être conquises par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda.
Non, je souhaite que vous puissiez parler d'agression rwandaise et les choses seront plus claires.
Le M23 soutenue par le Rwanda.
On est sur Radio Capi.
Ça n'a rien à voir avec Radio Capi. Le gouvernement parle d'une rébellion soutenue par le Rwanda.
Je suis le porte-parole du gouvernement. Je vous parle de l'agression rwandaise. C'est démontré, on va parler par exemple de l'incident, des coups des obus qui sont tombés sur des camps des déplacés. C'est des types de matériel qui appartiennent à des gouvernements. Et c'est bien clair, vous avez suivi la position américaine à ces propos, parce qu'il faut que cela soit aussi bien clair et bien compris de ceux qui le suivent. Et donc, pour le reste, Madame McEllistone, nous comprenons l'impatience de Congolais. Nous sommes d'ailleurs plus impatients. parce que le président de la République, y compris durant la dernière campagne électorale, c'est les principaux sujets sur lesquels nous travaillons. Alors, nous sommes dans un contexte d'une guerre. Et dans une guerre, vous perdez des batailles, vous en gagnez, vous avancez, c'est cela la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut éviter le piège, justement, de suivre tout ce qui est balancé sur les réseaux sociaux, parce que là aussi, nous faisons face à un front fort sur la manipulation. On recycle des images, on les partage sur les réseaux sociaux, et comme malheureusement, on a tous la propension à partager les mauvaises nouvelles, mais parfois, naïvement, nous contribuons à passer les messages de l'ennemi. Et pour ça, nous prenons des dispositions, c'est pour ça que nous sommes ici sur Radio Capi, y compris pour apporter une réponse, et pour ça aussi que nous saluons le travail que vous faites, mais aussi tous les médias pour apporter les bonnes informations.
Et donc, dans un bref délai, toutes les localités conquises par l'agression rwandaise...
Vous savez que on ne peut pas, pour des cas, nous sommes dans une situation des guerres de bataille, on va pas s'hasarder à dire ceci ou cela dans un bref délai ou etc. Mais toujours est-il que nous travaillons au quotidien pour que le plus rapidement possible nous puissions trouver la solution et la solution définitive à ces problèmes.
Alors parlons des processus de Nairobi et de Luanda. Où est-ce que nous en sommes, monsieur le ministre?
C'est pas parce qu'on n'en parle plus que ça n'existe plus. Nous avions eu des discussions. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le ministre Lutundula, à la tête d'une délégation congolaise, était à Luanda, à côté de la délégation rwandaise sous la médiation angolaise, pour discuter justement des conditions pour faire avancer les processus. Malheureusement, il y a eu des événements qui a eu récemment à Karuba. Et qui disons qu'il y a eu récemment à Mugunga, parce que les coups de tir sont partis de Karuba vers Mugunga et qui a fait plusieurs dizaines de morts du côté congolais. Ça, c'est un événement qui a une incidence sur le processus en cours. Nous avions fait un communiqué à ce propos parce qu'il était prévu d'avoir d'autres rounds, des discussions avec la partie rwandaise autour de la médiation angolaise pour voir comment on fait avancer des choses sur ce front-là. C'est aussi l'un des points qui a figuré, peut-être qu'on y reviendra, dans l'agenda des discussions entre le président Tshisekedi et le président Macron. Et le président Macron avait dit au président qu'il s'activerait pour apporter justement sa contribution pour la résolution du problème. Et les réponses du président étaient claires, nous attendons voir.
Alors, monsieur le ministre, face à l'escalade de la violence et l'insécurité au Nord Kivu, les besoins humanitaires des populations croissent des jours en jour. Aujourd'hui, on parle de 2,6 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire au Nord Kivu.
Au moment où je vous parle, mes collègues de droits humains et des affaires humanitaires sont sur place. Ils essayent d'apporter la réponse du gouvernement, mais ce sera jamais une réponse totalement satisfaisante. C'est des réponses de soulagement.
C'est quoi la réponse du gouvernement?
Madame, lorsque vous êtes dans un camp des déplacés, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de bâches. Et c'est le travail sur lequel s'attelle mon collègue Mutinga. Mais il faut pas oublier qu'aussi il y a des organisations humanitaires qui appuient régulièrement le gouvernement, y compris le gouvernement provincial localement, pour essayer de soulager un tant soit peu les difficultés de nos populations, parce que nous pensons que la vraie solution à ce problème, c'est la restauration de la sécurité d'où ils sont venus. C'est là qu'ils pourront retourner vaquer à leurs occupations quotidiennes.
On va prendre, monsieur le ministre, cet acteur de la société civile qui nous suit depuis Goma au Nord Kivu, me signale la réalisation. S'il est prêt, on va le mettre en ligne. Il a une question ou des questions à vous poser.
Je m'appelle Jean-Claude Bambanze. Je suis le président de la société civile du territoire de Rutshuru en déplacement à Goma à cause de la guerre nous imposé par les Rwandais via le M23. Je voudrais poser quelques questions au ministre. Est-ce que le gouvernement comprend réellement que nous sommes en guerre? Et est-ce que le gouvernement connaît que il y a des territoires, notamment Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, qui sont sous la domination du M23? Si oui, pourquoi la léthargie du gouvernement dans la traque de ces bandits qui nous endeuillent chaque jour? Faudra-t-il combien de morts pour que le gouvernement comprenne qu'il doit lancer des offensives pour neutraliser ces terroristes du M23 et permettre aux déplacés de retourner chez eux? L'autre question, c'est que les gouvernements aujourd'hui semblent ne pas être préoccupés par les problèmes du Nord Kivu, notamment Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, même du côté de Beni. Au lieu de s'occuper des questions, en tout cas de la sécurité des populations, ils sont dans des préoccupations politiques pour se partager les pouvoirs. Est-ce que le gouvernement comprend réellement le rôle qu'il a dans le cadre de la sécurisation de sa population? Si oui, que le ministre nous dise clairement combien de pourcents il donnerait à ce gouvernement qui n'a pas réussi à sécuriser la population et qui risque à maintenant peine à prendre des décisions pour traquer ces bandits qui continuent à nous endeuiller. Enfin, je voudrais quand même poser la question, est-ce que le gouvernement connaît clairement ces populations endeuillées qui sont dans des camps déplacés sont aussi des Congolais comme les autres? Si oui, pourquoi le gouvernement peine à apporter même l'assistance auprès de ces déplacés? Je sais que le ministre va dire que non, il y a une délégation qui est au nord qui veut pour venir enterrer. Est-ce que le gouvernement attendra seulement qu'il y ait des morts pour venir enterrer au lieu de prendre des mesures pour chasser ceux qui nous endeillent jour et nuit?
Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Écoutez, il a posé des questions qui sont claires, qui sont pertinentes, et c'est des questions qui sont compréhensibles maintenant de quelqu'un qui est en situation de déplacement. Mais je crois qu'il faut essayer de bien s'informer sur ce que nous faisons. Malheureusement, sur un certain nombre de détails, notamment opérationnels, je ne suis pas habilité à communiquer dessus, mais Madame Kelly, il faut savoir que le premier poste de budget du gouvernement va essentiellement pour la guerre. Je voudrais pas vous donner des chiffres, mais je peux vous dire que les discussions,
une estimation,
on est déjà dans l'ordre de, on dépasse déjà le 1,5 milliard d'investissements dans, c'est les principales postes des dépenses du gouvernement, c'est celui-là. Et d'ailleurs, il faut aussi tirer une fière chandelle à nos collègues de finances et de budget qui ont été devant de FMI pour discuter parce que c'est ce qui a un peu risqué de perturber la fin de la sixième revue. Première chose. Deuxième chose. Le gouvernement, lorsqu'il intervient, il n'intervient pas forcément ou pas toujours avec des caméras. Il faut savoir que la question, je venais de le dire tout à l'heure, la question de la guerre dans l'Est est le principal sujet. Nous avons un gouvernement provincial qui est régulièrement appuyé par le gouvernement national dans les traitements des questions quotidiennes des camps des déplacés. Je vous donne un exemple. Nous savons par exemple que dans les camps des déplacés, j'étais sur place récemment, il y a des phénomènes qui sont observés, notamment des violences contre les femmes, des abus sexuels qui sont observés. Le ministre de la Défense, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, a pris deux arrêtés instituant des commissions qui travaillent de manière permanente, non seulement dans les recensements des différents cas, mais aussi dans les sanctions qui doivent être prises pour prévenir tout cela. Ça veut dire qu'ici, il faut considérer que nous sommes malheureusement devant plusieurs mauvais cas de figure, parce que d'abord, avoir des populations déplacées par millions, c'est une pression parce qu'ils doivent vivre, y compris sur l'écosystème, c'est une pression au plan de la salubrité, c'est une pression au plan sanitaire, c'est une pression sur tous les plans, et c'est pourquoi le gouvernement travaille pour apporter des réponses. Alors, il n'y a aucune situation qui n'est soit vécue par les populations de Masisi, du Rutshuru ou des Nyiragongo qui ne soient pas connues de nous. Parce que nous faisons un monitoring quotidien. Alors ici, tout le monde, évidemment, nous pensons que nous devons aller à la solution. Mais la solution, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons deux pistes. Il y a la piste militaire pour laquelle les Nations Unies, tous les pays du monde pensent que nous devons aller sur la voie de la paix, sur la voie du dialogue et sur la voie de ce qui s'est fait déjà à Luanda. Malheureusement, Madame Kelly, le temps de la diplomatie est celui-là. Nous comprenons donc l'impatience de nos populations. Sur d'autres fronts,
le gouvernement est prêt à négocier, à dialoguer aujourd'hui avec le Rwanda.
Mais écoutez, Madame, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que nous étions à Luanda, autour de la médiation angolaise, avec d'une part les Rwandais, c'est déjà ça. Le processus de Luanda dont on parlait, c'est déjà ça. ici, c'est que nous ne ferons...
Un tête-à-tête au président Tshisekedi et le président Kagame.
Ça résoudrait quoi tant que les troupes rwandaises sont encore sur les sols congolais? Absolument rien. Dans les cas de figure, et c'est ce qui est en cours maintenant, c'est de voir autour de la médiation angolaise des mesures. Pour nous, c'est une ligne rouge. Avant d'envisager une quelconque forme des discussions entre nos deux présidents, les Rwandais doivent retirer ces militaires de notre territoire. Et en ce moment-là, on peut envisager des discussions dans le cadre du processus qui a déjà été bien établi.
Edelphonse Ngoy, qui nous écrit depuis Kindu Maniema, comment imaginer que malgré les efforts diplomatiques menés par le gouvernement congolais, il n'arrive toujours pas à obtenir un soutien sincère dans la sous-région, l'Union africaine et la communauté internationale. Sur terrain, l'ennemi progresse et exploite. La politique des déclarations ne résoudra rien au pays. C'est à ce titre que même le prochain gouvernement héritera ce fléau s'il n'applique pas une nette rupture avec la mauvaise gestion sécuritaire actuelle.
Écoutez, madame, c'est une question qu'on peut se poser depuis 20 ans. Parce que cette situation, malheureusement, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et les phénomènes que nous vivons ici, c'est un phénomène recyclé. Parce que depuis les génocides rwandais de triste mémoire de 1994, l'Est de la RDC a commencé à payer les prix. Je voudrais pas vous rappeler des épisodes RCD, SNDP, etc. C'est la même méthode qui est utilisée parce qu'il faut complètement garder cette partie de la République démocratique du Congo sous l'influence rwandaise pour continuer les processus de pillage. Ici, nous avons commencé un processus où nous voulons sortir définitivement de cycles de violence qui durent 25-30 ans. C'est énorme. Et les solutions à y apporter, malheureusement, c'est pas des solutions qui peuvent venir par coup de baguette magique, c'est des solutions qui requièrent le temps. Et je disais tout à l'heure que on dit que la diplomatie est peut-être ce qu'elle est. Parce que nous sommes dans une situation où nous avons un besoin pressant. Mais parallèlement à cela, il ne faut pas oublier, je l'ai dit tout à l'heure, que nous évoluons dans un monde. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que le mal est connu, le mal, c'est le Rwanda. Il y a des opérations qui sont en cours de préparation militaire entre nous et les forces de la SADC. Je ne pourrais pas aller dans les détails opérationnels. C'est pour vous dire qu'il y a toutes les solutions qui sont envisagées, mais ici, la solution militaire, qui est la solution à privilégier, celle que nous voulons, nous imposera un coût humanitaire. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre du travail qui est en cours au niveau du ministère de la Défense.
Mais notre armée ne lance pas des offensives. Mais écoutez, pourquoi
la question, c'est pas lorsque l'armée lance une offensive, on va pas venir derrière le micro de Radio Capi dire que nous avons lancé une offensive. Il y a plusieurs fronts.
Mais la population, pourquoi attendre que les rebelles attaquent pour réagir?
La question, je vous ai dit tout à l'heure, parce que lorsque l'armée opère, l'armée ne doit pas venir dire, bon, demain, on va lancer une opération à tel endroit ou à tel endroit. Et il y a beaucoup de choses, toutes les fois que je discute avec mon collègue de la Défense, je lui dis, mais il faut toujours nous fournir les informations de comment la situation se passe sur le front. Mais il y a évidemment des informations que nous recevons, d'autres que nous ne recevons pas, parce que c'est classé défense. Mais il faut pas considérer que nos forces armées qui sont dans... Dieu seul sait où serait l'agression aujourd'hui s'il n'y avait pas nos forces armées qui s'interposaient à des points réguliers avec une riposte qu'il faut pour éviter que cela, que les rebelles ne prennent plus de territoire. Sinon, ça qui serait déjà pris, par exemple.
Alors, Monsieur Patrick Mouyaya, il y a Franck qui nous écrit depuis Kinshasa et qui pense que c'est parce qu'il n'y a pas de gouvernement qu'on ne sait pas prendre des grandes décisions pour mettre fin à cette situation de guerre dans la partie est de la RDC.
Écoutez, ceci n'est pas forcément lié à cela, parce que nous sommes un gouvernement, nous traitions la question.
Vous expédiez les affaires courantes. Est-ce que vous avez le droit de prendre des grandes décisions qui vont engager
Écoutez, madame, qu'est-ce que vous entendez par affaires courantes lorsque vous avez, par exemple, la situation qui s'est imposée à Mugunga la dernière fois? Vous savez, pour la sécurité des Congolais, il n'existe pas d'affaires courantes. Parce que la sécurité, c'est une priorité absolue. Et il ne faut pas oublier que nous avons un président de la République qui a prêté serment, qui a été investi. C'est lui le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Pour les questions de sécurité de ce type, il n'y a pas d'affaires courantes. Pas du tout.
4 mois que les Congolais attendent le gouvernement. Je vais revenir parce qu'il nous a permis de parler justement de la formation du gouvernement. On a déjà une première ministre nommée par le président de la République. On attend la formation du gouvernement, la sortie du gouvernement. Entre-temps, tout tourne au ralenti. Je dirais même que le pays est en pause et en mode pause.
Est-ce que vous êtes en pause?
Moi, je travaille, je ne le suis pas.
Mais justement, est-ce que le ministre qui vous parle est en pause? Non. Je veux vous dire, Madame Kelly.
Qu'est-ce qui bloque d'avoir la sortie du gouvernement?
Mais vous savez que moi, je suis porte-parole du gouvernement qui expédie du gouvernement sortant.
Vous êtes cadre de l'Union question, sacrée
cette
aussi.
Cette question, il faudra peut-être la destiner à Madame la Première ministre qui pourra vous dire.
Mais vous êtes aussi cadre de l'Union sacrée.
Je crois que justement, c'est une question d'habilitation. Peut-être que je n'ai pas suffisamment d'informations pour aller dire que ça bloque. Mais je crois malheureusement que le système politique qui est le nôtre, nous impose justement, malheureusement, de prendre du temps. Parce qu'il faut faire des consultations, il faut discuter avec tel regroupement, il faut regarder telle représentativité ou tel autre critère. Mais je crois que toutes ces questions, connaissant la Première ministre Judith Subinan, elle tient compte de l'urgence.
Mais tout ça, ça se prépare en amont, monsieur le premier.
Il y a eu le travail qui a été fait par un informateur. Il y a un rapport qui a été fait. Il y a un travail qui est fait et qui est en cours. Et dans les meilleurs moments, cela se fera. Mais ce qui est dangereux, madame Kelly. Et je crois que c'est une interpellation collective. Malheureusement, dans notre pays, nous sommes trop dépendants de la politique. Peut-être parce que nous n'avons pas, et c'est un processus qui est en cours, en tout cas avec notre gouvernement, pour refaire de manière très efficace et très solide notre administration. Pour ne pas avoir l'impression que lorsque le gouvernement n'est pas encore nommé, que le pays s'arrête. Le pays ne peut jamais s'arrêter. Et donc, au moment où je vous parle, tous mes collègues sont à leur poste, ils travaillent, peut-être pas à cette heure-ci, parce qu'ils ont déjà terminé leurs tâches quotidiennes, mais moi, pour ce qui me concerne, je travaille au quotidien, le Premier ministre et tous les autres.
Vous êtes en même temps porte-parole du gouvernement et député national? Ça se passe comment? Non, je ne suis pas les deux.
Ne revenons pas sur cette polémique parce que la question a été bien tranchée.
Non, parce que c'est une question qui va revenir parce qu'il y a des auditeurs qui ont posé cette question.
Au moment où je vous parle, Madame Kelly Stone-Couté, mon mandat de député est suspendu.
Et dès que vous quittez, si vous n'êtes pas reconduit, vous reprenez.
Il va de soi. Donc ici, il n'y a pas de cumul. Il n'y a aucun ministre qui n'a été élu député ou sénateur qui perçoit un double paiement. Il faut éviter d'aller justement dans ces pièges-là où on pense que les ministres qui ont été élus vont gagner doublement, vont être payés doublement. Non. Ici, c'est bien clair.
Vous n'avez qu'un seul salaire, celui de ministre.
Mais bien sûr, c'est lui. Et d'ailleurs, mon suppléant n'a pas encore été validé. Donc, le salaire qui est revenu ou qui devait revenir au député Mouyaya n'est pas payé.
On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu.
Château Igilima à partir de Bukavu, en province du Sud Kivu. Nous saluons la présence au studio de messieurs les ministres porte-parole du gouvernement pour répondre aux préoccupations des Congolais que nous sommes. Messieurs les ministres, êtes-vous fiers d'être appelé ministre dans un gouvernement incapable d'apporter solution aux problèmes même d'un secteur de la vie? Comment sentez-vous dans votre peau de ministre lorsque vous apprenez que les Congolais sont tués ça et là parce que seulement ils ne sont pas sécurisés par l'État, même sans être ministre, mais comme tout être humain, vous arrive-t-il de voir la vie que mènent les déplacés dans différents cas? Si oui, à quel avantage de ministre avez-vous déjà renoncé pour soutenir les efforts de guerre? Par contre, nous avons comme impression que vous, membres du gouvernement, considérez cette guerre comme votre business, vous permettant de justifier tout ce que vous auriez dû faire dans d'autres secteurs de la vie. Si, par votre chance, vous parvenez à être reconduit dans le prochain gouvernement, nous vous demanderions d'aider la première ministre qui, elle, a la volonté de réduire les trains de vie des institutions. C'est dans cette perspective seulement que le gouvernement Soumouina pourra se démarquer du vôtre qui, à mon avis, a échoué à tous les niveaux.
Je vous laisse répondre.
Ben, je ne suis pas de son avis, mais nous sommes dans un contexte démocratique. Ça dépend de quels critères il a pour apprécier, pour étayer ses propos, parce qu'il faut considérer, Madame Kelly, que ça fait beaucoup d'années, beaucoup d'années, que dans ce pays, on n'a pas réglé des problèmes de fond. Je veux vous rappeler 2, 3, 4 actions qui font qu'aujourd'hui, nous avons fait mieux que quiconque avant nous. Regardez l'action de la gratuité de l'enseignement. On en parle dans la Constitution depuis 2006, on ne l'a appliqué qu'en 2019. Aujourd'hui, combien d'enfants sont retournés à l'école ? Premier exemple. Deuxième exemple, le programme de développement local de 145 territoires. Aujourd'hui, on est à plus de 900 édifices livrés qui sont écoles, bâtiments d'administration et hôpitaux. Je peux encore prendre l'exemple de la mise en place de la couverture santé universelle, permettre à tous les Congolais d'avoir accès à des soins de santé à bas prix et des soins de qualité. En cours, première phase, 200 millions de dollars Kinshasa ou plus, où on remarque où il y a le plus fort taux de mortalité infantile. C'est des réponses de fond que nous apportons. Est-ce que je dois aller parler de ce qui s'est fait au niveau de l'administration publique ? La vérité, Madame Kelly, écoutez, c'est que pendant des longues années, beaucoup des gens n'ont pas regardé les pays dans les véritables états dans lesquels ils étaient. Ici, nous sommes dans une phase de refondation. Que ce qui concerne, en ce qui concerne la police, en ce qui concerne l'armée, en ce qui concerne les systèmes éducatifs, en ce qui concerne l'administration publique, il faut, avant de dire que nous avons échoué, il faut regarder le point des départs.
Mais aujourd'hui, je vous dis, je ne souhaiterais pas,
Madame Kelly, que vous dites que depuis qu'on est aux affaires. J'aime personnellement pas cette expression parce que ça donne une impression, bon voilà, vous êtes là pour gagner de l'argent. Non, nous sommes aux responsabilités. Depuis que nous sommes aux responsabilités, nuit et jour, nous donnons des nôtres meilleurs pour améliorer l'existant. Alors, on va pas venir ici nous bomber les torses. Parce que justement, nous avons des gaps d'à peu près 20 à 25 millions d'enfants qui sont pas allés à l'école. Lorsqu'on a réglé les problèmes de 5 millions, vous êtes l'État. Vous venez pas vous bomber les torses, mais vous regardez les progrès que vous avez faits. Aujourd'hui, pour parler par exemple au plan économique, pour la première fois, nous avons passé la 6e revue. Alors les gens vont se dire, on mange pas la revue. Ok,
mais ça se ressemble pas dans le panier de la ménagère.
Mais c'est justement des efforts comme ceux-là qui nous permettent de nous crédibiliser comme pays et nous permettra demain d'avoir accès à des investissements plus massifs pour investir et commencer à donner des réponses aux Congolais partout où ils se trouvent. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que nous connaissons la situation du Congo parfois, souvent en tout cas bien plus que beaucoup, et nous vivons nous une vie de sacrifice. Une vie des sacrifices au quotidien, parce que Madame Kelly, ce n'est pas facile d'écouter ce qui est dit par des compatriotes qui sont meurtris dans leur âme et qui nous regardent comme le parent qui doit apporter la solution. Vous avez essayé de vous mettre à notre place et tous les jours vous enregistrez de plaintes de ces types. Mais nous considérons que c'est un défi. Et parce que c'est un défi, et parce que nous avons la détermination, et parce que nous avons un commandant à bord qui est tout aussi déterminé que nous, le président de la République, tous les jours, nous donnons de notre meilleur pour améliorer l'existant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et faire évoluer la République démocratique du Congo. Malheureusement, on ne peut pas construire un paradis social dans un désert économique. Ce n'est pas évident que dès demain, l'on ressente le changement, mais il faut plutôt considérer les efforts qui sont faits. Aujourd'hui, si je dois vous parler d'entrepreneuriat, beaucoup des jeunes ont bénéficié de beaucoup de subventions et qui sont en train de trouver des petites solutions à des petits endroits qui apportent de petits changements. Peut-être que ça arrivera là où se trouve notre compatriote.
Je reviens sur ma question, monsieur le ministre. Pendant le premier, ça fait 5 ans que vous êtes aux affaires, excusez-moi.
C'est le terme qui me revient. Aux responsabilités, s'il vous plaît.
Comme merci. Vous voulez. Aux responsabilités comme vous
c'est
voulez.
C'est plus des responsabilités, si l'on vous c'est demandé, jamais des affaires,
si l'on vous demandait de dresser le bilan, est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que vous êtes fier et que la vie du Congolais s'est améliorée?
Je veux vous répondre en toute franchise. Comme d'ailleurs, on va pas venir nous satisfaire, dire que nous avons, nous, un bilan positif lorsque nous devons être jugés en fonction du degré de pauvreté et de misère de notre population. Nous pouvons par contre nous satisfaire de ce qu'on a pu accomplir dans les termes du mandat qui était les nôtres par rapport aux agrégats qu'on a trouvés. Je vous donne un exemple. Parlons de l'armée. Aujourd'hui, nous disposons d'une loi de programmation militaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a investi au moins 1,5 milliard dans l'armée. C'est du record jamais fait dans ce pays. C'est 5 fois plus que ce qui se faisait par avant. Aujourd'hui. Mais justement, les résultats, Madame Kelly, pour, par exemple, pour une armée, ça prend du temps. Lorsque le président de la République arrive, on dit, il y avait peut-être 150 000 d'effectifs et qu'en réalité, il y avait peut-être 90 000 pour un pays comme la RDC. Il faut mettre de l'ordre. Nous avons une armée que nous reformons, une armée au sein de laquelle il faut combattre les mauvaises pratiques qu'il y avait par les passés.
Pourtant, le chef de l'État avait dit qu'il avait trouvé une armée structurée. C'est faire plusieurs choses.
J'étais en Itouri avec lui en juin 2021. Nous avions fait les constats que je vous partage. Mais ça, c'est, je vous donne les défis de départ. Aujourd'hui, lorsque vous allez au niveau de l'état-major, vous discutez, vous allez voir qu'il y a une stratégie claire, une loi des programmations, une politique des défenses qui est définie et qui nous permet d'avancer. Si vous allez au niveau de l'administration publique, le ministre Eliaou va vous dire où nous en sommes avec le processus des rajeunissements. Pour la première fois dans ce pays, depuis des années, on a mis à la retraite, Madame Kelly, on a amorcé un processus de rajeunissement. Je vous ai dit ce qui a été fait dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation. Je vous parlerai pas du secteur de médias. Vous êtes témoin des efforts que nous avons entrepris. Le Congo est en train, en réalité, d'être recréé. Alors, je souhaiterais que ceux qui nous jugent essayent de nous juger en faisant un petit effort, en se disant où est-ce qu'ils ont trouvé le pays en 2019, du point de vue de l'administration, du point de vue de l'enseignement supérieur, du point de vue de l'éducation, du point de vue de la communication. Vous allez voir que dans chaque secteur, nous avons fait des progrès, mais qui malheureusement ne peuvent pas renverser ce qui n'a pas été fait en 25-30 ans. Mais nous considérons que c'est des interpellations.
On va prendre juste un petit exemple de la ville, avancer. Province de Kinshasa.
Allons-y, madame.
Kinshasa en 2019 et Kinshasa en 2023. Faites une comparaison, monsieur le ministre.
Je veux vous dire que moi, comme élu des Kinshasa, je suis effectivement déçu. Je veux vous dire pourquoi. Et c'est là qu'il faut qu'on sache faire la démarcation et qu'on situe les responsabilités des uns et des autres. Kinshasa a un gouverneur, comme toutes les autres provinces. Il y a des compétences qui sont reconnues aux gouvernements provinciaux, qui devraient s'assumer. Malheureusement, on a vu que parfois il y a eu des efforts, mais parfois on a vu qu'il n'y avait pas d'efforts. Et ça nous révolte tous parce que nous sommes tous habitants de Kinshasa. Lorsqu'il pleut, ou lorsqu'il n'y a pas de courant, nous, moi j'ai été réélu à Kinshasa, même au niveau provincial, nous allons nous assurer que le nouveau gouverneur des Kinshasa soit en mesure de rendre Kinshasa différent et au plus vite. La question, ce n'est pas de régler tous les problèmes des Kinshasa en même temps. La question, c'est de montrer aux Kinois qu'il y a possibilité de faire des choses différemment. Et nous allons nous assurer que cela se fasse.
Alors, parce que nous parlons du social, de la population, il y a Gloire Bissimwa, il n'a pas indiqué d'où il nous écrivait, Radio Capi, vous avez omis un point crucial. Qu'en est-il de l'évolution du processus de recrutement au sein de l'inspection générale du travail initiée par le président de la République mais abandonnée aujourd'hui? Le porte-parole du gouvernement devrait nous expliquer comment un État peut recruter des gens pour ensuite les abandonner dans la rue.
Je crois que le processus n'est pas abandonné. Peut-être que j'ai pas la dernière mise à jour, mais je me souviens avoir fait un briefing spécial avec ma collègue du travail et le vice-premier ministre de la fonction publique pour en parler. Je reposerai la question à ma collègue pour avoir les derniers statuts, mais je crois savoir qu'elle avait même présenté l'évolution du sujet en conseil de ministre et des options ont été élevées quant à ce. Peut-être parce qu'il y avait des élections, la chaleur électorale, peut-être que les choses n'ont pas suivi, mais il faut considérer qu'il y a une volonté claire de finir ces processus.
Alors on va parler de la visite du président Félix Tshisekedi à Paris. Vous étiez dans la délégation qu'il a accompagnée dans cette visite officielle. Qu'est-ce qu'on peut retenir, monsieur le porte-parole? Que retenir de cette visite?
D'abord, la visite était à l'initiative du président Macron qui a invité le président pour une visite officielle. Je rappelle que la dernière visite officielle d'un président de la République en France remonte à plus des décennies, il y a très longtemps. Et la visite du président a été à plusieurs égards très productive. Premièrement, parce que nous avons eu l'occasion de faire le point notamment de la coopération militaire. On ne les dit peut-être pas assez, mais la France est parmi nos principaux partenaires militaires en termes de formation, notamment de certains bataillons, bataillons de combat en jungle notamment. Nous avons fait le point, parce que vous savez que nous disposons en Afrique centrale d'une école des références en la matière, Collège des hautes études des stratégies et des défenses, je pense que vous êtes passé par là. Nous avons une école des guerres, et nous étions, au cours de la discussion que nous avons eue justement à l'école des guerres en France, vu comment on réajusterait, on réadapterait un certain nombre de programmes, et cette fois-ci nous y avons ajouté la question de la réserve armée des défenses, parce que par rapport aux menaces auxquelles le pays fait face, il est question de voir aussi comment on organise cette réserve. Et donc il faut, et d'ailleurs le ministre de la Défense des armées de la France devrait venir en RDC dans les prochains jours pour nous assurer que nous avons élevé à un niveau encore plus haut la coopération militaire de ces points de vue. Ça c'est un point. Le deuxième point, le président de la République a eu des échanges avec le président Macron. Il faut dire que la France a mis les petits plats dans les grands, si je peux me permettre cette expression, parce que le jour où nous avons été reçus à l'Élysée, il y avait trois activités. Il y avait une activité des déjeuners, donc des deux premières dames qui ont discuté des sujets qui leur concernent. Ensuite, il y avait un déjeuner en tête-à-tête entre le président Macron et les présidents Tshisekedi. Ensuite, il y avait un déjeuner ministériel entre nous et les ministres français. Et nous avons eu l'occasion de faire le point de toute la coopération de manière générale. Par exemple, nous avons exprimé nos sujets de frustration au sujet de la position de l'Union européenne concernant les minéraux stratégiques. Nous avons eu l'occasion de rediscuter avec la France, parce que vous savez que la France, c'est la plume de toutes les résolutions qui concernent la RDC au Conseil des sécurités. Nous avons fait plusieurs progrès avec eux. Il y avait encore une question qui devait être clarifiée pour ce qui concernait la levée de l'embargo. Cela a été fait. Le vice-premier ministre Lutundu Lanula a annoncé quand nous étions à l'étape de Bruxelles. Et puis, il y a eu le point de presse conjoint entre les deux chefs d'État qui a résumé ce qui a été dit. Alors, si à Kinshasa, le président Macron n'était pas clair sur le Rwanda, dans les déclarations, il a été cette fois à Paris et il s'est engagé à plusieurs choses dans la discussion à huis clos avec le président pour lequel nous attendons de voir. Ensuite, nous avons eu une table ronde économique.
Il s'est engagé à faire quoi par exemple? C'est aussi un secret?
Ben, je ne saurais pas vous dire, j'étais pas dans la discussion. C'était une discussion en tête à tête entre deux chefs d'État. Mais il a dit qu'il s'était engagé, le président de la République nous a dit qu'il attendait de voir. Parce que sur la République démocratique du Congo, nous sommes fatigués des déclarations de condamnation parce que les pays occidentaux disposent des leviers. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine, nous savons ce qu'ils sont capables de faire et nous souhaitons qu'ils les fassent et ce serait justice pour le peuple congolais qui est meurtri depuis des années. Ensuite, nous avons eu une table ronde économique où le président de la République a rencontré les MEDEF, le patronat français, au cours d'une discussion où on a présenté la République démocratique du Congo avec les efforts qui sont en cours, tant au plan de l'énergie, au plan des infrastructures, qu'au plan de l'assainissement du climat des affaires. Et la tournée s'est terminée par une rencontre entre les présidents et les compatriotes pour marquer un peu la communion qui existe avec entre le président et les Congolais partout où ils se trouvent. Le tout dans un contexte où notre ambassade en France a été renouvelée, un peu comme pour donner la volonté de faire de notre diplomatie un véritable point de rayonnement du pays. Nous pouvons considérer que sur plusieurs sujets, avec la France, nous avons avancé, mais nous avancerons véritablement que lorsque la France agira en termes de sanctions, en termes de pression plus forte sur le Rwanda pour cesser cette agression dans l'est de l'RDC.
Vous voyez vraiment la France, monsieur le porte-parole, sanctionner le Rwanda alors qu'elle est partenaire au Rwanda.
Écoutez, vous pensez que les États-Unis ont cessé tout partenariat avec la Russie? Vous pensez vraiment? C'est de la diplomatie. Nous, c'est que nous réclamons, c'est la justice. La justice pour notre peuple. Parce que le moment venu, vous savez, madame, nous sommes très impatients, je dois vous dire. Vous le savez que les Congolais, pour la plupart, veulent la guerre. Vous aussi, vous voulez la guerre, n'est-ce pas?
Non, répondez à mes questions. Ne me posez pas de questions, monsieur le ministre.
Écoutez, c'était là où vous êtes.
La RDC,
là où vous êtes. Vous ne les direz pas sur ce micro.
Mais la vérité,
non, la vérité, c'est que lorsque
on voit que les deux fronts ne marchent pas.
Non, vous pouvez pas dire que ça marche pas. Il faut faire attention parce que sur quelle base vous dites que sur la diplomatie nous ne marchons pas. Lorsque je viens de vous dire,
on a vu le gouvernement
lorsque je viens de
sur des plateaux de télévision.
Vous me laissez répondre. Lorsque les gouvernements américains condamnant l'odieuse attaque sur un camp des déplacés qui est fait suite à plusieurs stratégies, parce que le Rwanda, comme ils ont une armée de criminels qui s'en prennent à des objectifs civils, lorsque le gouvernement américain se prononce et pointe le Rwanda, vous pensez que c'est pas un problème?
Le même gouvernement demande au Rwanda d'enquêter.
D'enquêter pour identifier ceux qui ont tiré.
Voilà.
La responsabilité du Rwanda comme pays est engagée, c'est les Américains qui l'ont dit. Ça veut dire qu'il faut considérer que même les positions au niveau de l'Occident avancent. Donc après, la diplomatie a ses règles. Après, le Rwanda reste un pays fragile. Sûrement qu'ils ont d'autres éléments à leur niveau, mais nous considérons que, de toute évidence, Madame Kelly, écoutez, je vous ai dit que le Congolais, ce qu'il voulait, c'est la guerre.
Alors, on l'a dit, dans le sommaire, qu'on a plusieurs aspects, plusieurs questions que nous allons aborder dans cette émission. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa, qui a aussi des questions, des préoccupations pour vous, monsieur le porte-parole du gouvernement.
Junior Bompongo, depuis la ville province de Kinshasa. Quelques questions qui me reviennent à l'esprit sont les suivantes. Primo, est-ce que l'actuel régime est prêt pour stopper l'hémorragie de la corruption et des détournements des derniers publics? Oui ou non soit-il, quelles sont les dispositions pratiques? Car nous avons l'impression que ces phénomènes, bien que dissuadés par l'inspection générale des finances, dans une certaine mesure, ont la peau dure. Deuxième question. Comme porte-parole du gouvernement, comment se sent-il lorsqu'il est membre d'un gouvernement dont ses collègues et ministres sont cités dans les affaires aussi scandaleuses, en l'occurrence l'affaire Forage et l'éclairage public à Kinshasa? Et la toute dernière question est la suivante. Peut-on espérer consolider les acquis avec une insécurité gravissime, avec une vie chère aussi jamais inégalé que les régimes précédents, au point que le slogan « Le peuple d'abord » s'est mué dans les oubliettes, alors que c'est sur ces credos qu'est finie l'union sacrée. Merci.
Patrick Mouyaya.
Alors, peut-on consolider les acquis dans un contexte de vie chère? Vous savez, Madame Kelly Stone Kouté, après la Covid, le monde entier a connu la montée des prix. Et lorsque vous regardez la République démocratique du Congo, peut-être qu'il faut donner la parole à des spécialistes des questions économiques et faire des émissions dédiées. Ils vous diront que nous avons plutôt bien résisté aux conséquences de la Covid et de la guerre en Ukraine. Et donc, la vie chère, il faut considérer que c'est la part d'un contexte général dans le monde entier et que nous avons essayé de résister. Et vous savez, madame, je parle souvent de ça. Peut-être que les gens ne font pas attention que 40% du prix du carburant consommé à la pompe est payé par l'État. Chaque litre que vous achetez pour votre véhicule, l'État paye 40%. C'est un exemple pour montrer qu'il y a cette intervention de l'État dans ce qu'on appelle social pour soulager. Je voudrais plus revenir sur l'éducation parce que nous en avons beaucoup parlé. Mais ceci dit, nous ne dormons pas sur nos lauriers parce qu'aujourd'hui, la véritable réponse que nous devons donner, c'est d'accroître notre politique de production. Il faut produire localement et être moins dépendant des importations. Parce que, madame, lorsque vous importez un poisson, vous payez non seulement le prix du poisson, mais vous payez son transport, vous payez sa douane, vous payez les autres faits connexes qui font que la pauvreté coûte plus cher. Et nous avons de ce point de vue, en tout cas au niveau du gouvernement qui était le nôtre, une politique claire au niveau du ministère de l'économie qui était à l'époque piloté par Vital Kamerhe et de l'agriculture pour voir comment on relançait l'agriculture parce que c'est la seule formule qui nous permettra de donner des réponses à notre besoin quotidien qui est celui de manger. L'autre volet de la question, il a parlé de la corruption. Vous savez, madame, la corruption est un fléau.
Détournement, on en parle de plus en plus ces derniers temps, monsieur le ministre.
Oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs bien qu'on en parle. C'est la preuve qu'il y a un effort de transparence sur ces sujets notamment. Pour vous donner un exemple, l'inspection générale de finances n'a pas été créée sous la présidence Tshisekedi. Elle existait avant, mais est-ce qu'on en entendait parler? Il y a 2-3 jours, j'ai lu un article sur un procès, je pense, qui a été tenu au niveau de la Cour de comptes contre de comptables publics. C'était inédit, on n'a jamais vu ça dans ce pays. Donc il faut considérer par exemple que sur ces aspects, il y a une volonté politique claire. Je vous donne un exemple. La RTNC est un organe sous ma tutelle, est un établissement sous ma tutelle. Pour que la RTNC dépense 1000 dollars américains, il faut l'avis des inspecteurs généraux, des inspecteurs de finances qui y sont. Ils interviennent en amont et en aval, et ce dans toutes les entreprises. Ça veut dire qu'il y a des soupapes qui ont été mises en place pour nous assurer qu'il n'y a pas des détournements. Pour revenir sur l'affaire qui est en question. D'ailleurs, vous savez, madame, malheureusement, lorsque vous
Comment vous vous sentez lorsque vous êtes...
Laissez-moi vous répondre. Vous savez, le travail d'un ministre, c'est de décider au quotidien. Et lorsque vous êtes ministre des Finances, spécialement, vous décidez au quotidien. Et chaque décision vous crée un conflit. Parce que le ministre des Finances, même avec moi, il a un conflit. Parce que j'estime que j'ai des besoins dans mon secteur et qu'il n'a pas financé. S'il ne l'a pas financé, c'est non pas qu'il ne voulait pas les financer, mais peut-être parce que l'assiette ne lui donne pas suffisamment de moyens pour y arriver. Et donc, il peut y avoir, évidemment, comme sur ces sujets-là, où il y a comme une forme de clameur publique. Mais un détournement, il faut arriver à l'établir. Il faut toujours partir du postulat que c'est un principe de droit, je ne suis pas juriste, de la présomption d'innocence. C'est tellement facile, lorsqu'il s'agit d'un ministre, de dire « Ah voilà, il est corrompu, il a détourné ». Mais encore qu'il faut venir établir l'effet des corruptions. Et sur cette affaire-là, ce qui est bien, c'est que la justice s'en est saisie. Et nous tous, nous allons regarder du côté de la justice pour que les responsabilités puissent être établies. Parce que c'est une affaire qui était même antérieure à notre arrivée au gouvernement. Il y avait des contrats qui ont été signés et on va situer la responsabilité des uns des autres. Ici, je dois peut-être saluer le courage de mon collègue Nicolas Kazadi, qui s'est lui-même, j'ai vu qu'il avait écrit au PG Cassation pour se présenter et pour donner ses éléments. Ça veut dire que nous tous, nous voulons la manifestation de la justice pour que les honneurs des uns des autres puissent être lavés au cas où ils ont été salis.
La Mais il faut considérer... le chef de l'État a traité de malade. Il faut qualifier de malade, je veux dire.
Madame, vous savez que malade. Vous savez que les secteurs de médias aussi est malade. Malgré les remèdes que je voulais apporter. Vous savez que tous les secteurs ici, sinon regardez depuis les débuts de l'émission, nous enregistrons pour la plupart que des plaintes. Tous les secteurs en République démocratique du Congo sont malades. Mais la maladie des uns peut être plus grave, peut avoir plus de conséquences que la maladie des autres. Je pense que lorsque le président de la République les dit, il est dit pour interpeller davantage ceux qui rendent la justice. Il y a eu recrutement de 5000 nouveaux magistrats, des jeunes. J'espère qu'ils viendront avec un nouvel esprit pour que la justice puisse être rendue justement. Et je pense que c'est vers ce sur quoi nous tendons et que la boutade, entre guillemets, du président de la République, c'est plus une interpellation pour ceux qui doivent rendre justice.
Alors, on va y aller très rapidement. La réalisation me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va prendre ces derniers... auditeur qui nous appelle.
Est-ce que M. Patrick Muyaya peut nous expliquer clairement et de manière concise en quoi la Constitution de la République ou une des dispositions de la Constitution actuelle empêcherait Mme Judith, la Première ministre, de former son gouvernement, tout en rappelant que Madame la ministre a été déjà installée par M. Félix Tshisekedi et que si aujourd'hui, selon la coalition Lamuka et la DD Congo, elle n'a pas pu former son gouvernement, c'est à cause des égos, de l'avidité des membres du Présidium de l'Union Sacrée qui veulent chacun dans son coin se tailler la part du lion. Chacun veut avoir le plus de ministres possible. Chacun veut avoir une bonne place au bord de la majoire, rester au gouvernement pour se faire le plus d'argent possible, et c'est au détriment du peuple qui souffre. Comment et pourquoi tromper tout un peuple à se réfugiant derrière les Congolais de la diaspora, encore que ceux qui ont demandé à M. Félix Tshisekedi de changer la constitution, c'est un groupe de militants de l'UDPS bien connu et identifié de tous en Europe. Comment à un niveau si élevé du pouvoir, se donner les kilos d'acier de mentir en tout un peuple que si nous voulons changer la constitution, c'est parce que, un, le Congolais de la diaspora nous ont demandé, et deux, c'est parce que la constitution empêche l'installation du gouvernement, empêche l'installation du bureau de l'Assemblée, alors que tout le monde le sait, c'est le manque de culture politique, la volonté à tout prix d'avoir le plus de ministres possible, une position idéale au sein du gouvernement, la compétition, le manque de gestion des ambitions ou la mauvaise gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée qui a bloqué l'installation du bureau de l'Assemblée, qui a bloqué la formation du gouvernement. Est-ce que M. Mouyaya peut regarder le peuple droit dans les yeux et dire la vérité au peuple que la Constitution n'a absolument rien à voir, même si elle peut avoir quelques écueils, mais on ne peut pas résoudre tous les problèmes du quotidien en changeant la Constitution, car l'électricité, il n'y en a pas à la cité, l'eau, il n'y en a pas. Ça fait 700 jours que Bunagana est entre les mains de l'armée rwandaise, ce n'est pas la Constitution qui fait défaut.
Alors, il a dit plusieurs choses. On a reconnu la voix de Prince Epenge de la Mouka. Comment vous lui répondez brièvement, monsieur le ministre?
Et on ne pouvait qu'être partisan pour arriver à faire ces cas, ces jours de chapelet. Je me réserve de faire plus de commentaires à propos.
Il est opportun aujourd'hui de reviser la Constitution.
Je retiens quelque chose qu'il a dit. Il a parlé de culture politique. Et évidemment, s'il a cette culture politique dont il parle, il faut avoir une certaine retenue ou un certain recul. Parce que nous qui composons l'élite, entre guillemets, il doit en faire partie aussi. Nous avons une responsabilité vis-à-vis du peuple. C'est que moi, je considère comme l'un des plus grands défis actuellement, c'est la lutte justement contre la désinformation, les fake news et toutes les mauvaises informations qui circulent. Et il faudrait pas que lui en soit le relais. C'est qu'il faut dire ceci. Le président de la République a parlé de la mise à jour de notre constitution. Et d'ailleurs, lorsqu'à Paris, on lui pose la question ou les gens en parlent, le président dit « Ne faites pas de moi un dictateur. Madame Kelly, je vous mets à défi. Interrogez tous les membres de cette classe politique. Tous. Interrogez-les froidement. Ce qu'ils pensent de la Constitution en cours. » Alors, il faut éviter des raccourcis dangereux. Pour lier la Constitution, une idée du président, et qui a dit clairement que nous allons mettre en place une commission. Il n'a pas dit que cela s'est fait au Parlement. Le Parlement serait le point de chute. Mais attendons voir, peut-être que M. Prince Epenge qui parle, entre guillemets...
Il y a quelque temps, on parlait déjà de cette commission mise en place pour essayer de changer carrément la Constitution.
Non, madame, il ne faut pas avoir peur, ni mystifier les débats. Encore moins la politiser au sens politicien du terme ou la réduire que sur une question qui concernerait le sort du président de la République. Vous avez vu, j'ai lu la sortie du Premier ministre honoraire Adolphe Musito à ses propos. Il a donné ses raisons. Aujourd'hui, nous devons être en mesure de nous dire qu'après le pacte de San City, qui a défini un certain nombre de choses, nous devons nous remettre à l'évidence au regard de la Constitution, de son degré d'application, pour voir comment on peut réajuster. Aujourd'hui, madame, il y a beaucoup de choses qui méritent d'être changées. Moi, je considère à titre personnel que lorsque je regarde, par exemple, que les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales, malheureusement, ça ne fonctionne pas beaucoup. La retenue à la source de 40%, la retenue à la source, ça fonctionne pas beaucoup. Peut-être parce qu'il fallait, s'il faut retenir à la source, d'autres provinces disparaîtront. Il y a des questions que nous, Congolais, nous devons être en mesure d'analyser froidement. Lorsque vous regardez le nombre de candidats, aux dernières élections, ça rend les choses encore plus complexes. Donc, ça veut dire, moi, j'ai travaillé dans les réformes électorales dans les cadres du groupe de 13, du G13. Aujourd'hui, nous devons avoir le courage de nous asseoir et convenir, par exemple, de ne plus jamais faire des élections en décembre, Madame Kelly. En décembre, regardez les processus, comment il est compliqué. Pourquoi on s'agréerait pas tous, nous tous, pour dire que les élections, faisons-les en saison sèche? Nous connaissons nos défis en termes d'infrastructure, en termes d'accessibilité du pays. En saison sèche, les choses seront plus faciles et plus faciles pour tout le monde. Alors, il faut regarder cette question de la mise à jour de la Constitution, non pas sous le prisme d'un sort individuel, mais plutôt sous le prisme du sort collectif. Et c'est d'ailleurs dans le collectif que se trouve l'esprit du président de la République.
C'est opportun, c'est urgent aujourd'hui, il faut une phrase.
Écoutez, le moment est arrivé, hein. Peut-être pas maintenant, au moment où je vous parle. Le président l'a dit en répondant à une question. Alors, dans le moment venu, il va s'exprimer de manière claire, il va préciser ses idées, une commission se mettra en place et les choses se feront.
Alors, deux dernières questions avant de nous séparer. Aksanti Chengamungu Olivier, depuis Bukavu Sud Kivu, quelle est la position du gouvernement sur l'affaire impliquant le cardinal Ambongo et comment compte-t-il gérer cette situation délicate qui semble toucher toute l'Afrique en général, vu le soutien de tous les clergés d'Afrique?
Mais écoutez, madame, vous savez, lorsque vous êtes cardinal, vous avez une responsabilité qui vous concerne pas seulement, entre guillemets, vos fidèles catholiques, mais qui concerne la nation parce que vous êtes une voix qui porte. C'est dangereux lorsque le cardinal dit des choses qui relayent les discours de l'ennemi, sans être en mesure de les étayer. Il y avait déjà une première sortie du cardinal qu'il avait eu à clarifier, parce que j'avais réagi en demandant au cardinal de clarifier, parce qu'il semblait donner lui raison à ceux qui choisissent d'être complices des agresseurs, parce qu'il y a un gâteau à partager. Et lorsque ça sort du cardinal, comment ne voulez-vous pas que les gens nous perçoivent ou perçoivent ce qu'ils font la politique, entre guillemets, comme de corrompus ou des détourneurs? Souvenez-vous de ce que le
mais
pape...
Mais tous les jours, les gens parlent, venu... monsieur non, le ministre.
Madame,
il n'y a pas que le cardinal
répondre.
Ambongo
laissez-moi
qui...
vous répondre.
Allez-y.
Laissez-moi vous répondre. Le cardinal n'a pas la même responsabilité que les autres qui parlent. Parce que le cardinal est un des hommes le plus informé. Écoutez, madame, le pape, lorsqu'il a rencontré toute l'Église ici, je vais encore retrouver son discours, il a dit, il faut vous occuper plus du salut des âmes. Moi, je me pose des questions si la tâche principale ne devrait pas être celle-là. Encore, je regardais encore le cardinal ce matin. Ça veut dire que lorsque vous voulez tenir des propos, il faut toujours évaluer la portée et les conséquences. Parce que vous êtes un cardinal pour être au centre du village. Le cardinal a tous les accès au président de la République, au premier ministre, ou s'il a, lui, des informations de ce genre, où il peut partager. Mais lorsqu'il vient le dire publiquement et que cela ne s'avère pas, il peut exister des conséquences. Voilà le commentaire que je peux faire. Et donc, l'idéal pour nous ici, c'est que le cardinal, comme l'Église catholique, est témoin du drame que nous vivons depuis 30 ans. Tout le monde est témoin. Ils sont aussi témoins des efforts que nous faisons. Ils sont aussi témoins de l'héritage qui a été les nôtres. Ils sont aussi témoins des efforts qui sont nécessaires à être mis en place pour arriver au monde, au pays idéal qu'ils souhaitent, que nous souhaitons tous. Alors, il ne faut pas qu'on fasse semblant et qu'on considère d'un côté, nous sommes du côté du bien, 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 et les autres sont du côté du mal, 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 sans se mettre au milieu et regarder ce qui a pu être fait comme un effort. Et
c'est vous soutenez donc la démarche du procureur?
Nous sommes dans une république démocratique où chaque institution a son rôle à jouer. La justice fait son travail, je suis porte-parole du gouvernement, je n'y interférerai pas. Mais je vous partage, moi, mon opinion. Parce que lorsque le cardinal parle, c'est des propos qui sont entendus et qui ont des conséquences. Il serait souhaitable que chaque fois que le cardinal prendra la parole, qu'il s'assure que les propos qu'il dit, c'est des propos qui correspondent forcément à la vérité.
Alors, votre opinion Patrick Muyaya, je ne parle pas du porte-parole du gouvernement. Vous soutenez ou pas la démarche du procureur?
Vous pensez que je peux avoir une opinion personnelle lorsque j'interviens comme porte-parole du gouvernement?
Si, vous pouvez l'avoir, monsieur.
Non. Vous savez, moi, je veux vous faire une confidence. Et peut-être, il faut que cela soit très bien compris. Vous savez que 90%, maintenant un peu moins, des cadres qui ont dirigé ces pays ont tous été formés par les catholiques. Les écoles catholiques, les universités catholiques. J'en suis un, moi j'ai fait une école protestante. Ok? Et que la plupart prient aussi à l'église catholique. Mais lorsque ces gens qui ont été formés dans les écoles, dans les universités catholiques, lorsqu'ils sont aux responsabilités et qu'ils reproduisent un comportement qui est celui-là, il faut qu'on s'interroge sur notre responsabilité à tous. Peut-être qu'il faudra faire un débat plus large là-dessus. Mais je considère que dans l'état dans lequel se trouve ce pays aujourd'hui, l'Église a sa part de responsabilité. Comme nous politiques, comme vous les médias. Et il faut nous tous qu'on s'assure que nous travaillons effectivement pour faire avancer la cause nationale. Et n'est pas prendre des positions qui donnent raison à ceux qui pensent qu'ils doivent prendre des armes pour tuer des Congolais et être complices des agresseurs qui tuent au Congo depuis 30 ans. Ça, c'est inacceptable.
Vous avez esquivé ma question, mais on comprend.
Je n'ai pas esquivé votre question,
Mouyaya,
j'ai répondu à ma
question,
manière.
C'est par rapport au rétablissement de la peine des morts en RDC. Vous avez suivi les réactions qui sont les suivies après la décision du gouvernement de pouvoir rétablir la peine de mort et même vos...
On a levé le moratoire sur le moratoire et après le moratoire, il n'y aura plus de peine de mort en RDC. Le président de la République l'a dit. Vous pensez que c'est des gaietés des cœurs que le président de la République et les gouvernements prennent la décision? Vous pensez que c'est des gaietés des cœurs? Lorsque vous réécouterez cette émission, vous allez voir que les Congolais sont fâchés parce qu'ils estiment que nous ne faisons pas assez pour restaurer la sécurité partout dans le pays. Mais lorsque vous faites des efforts pour restaurer cette sécurité et qu'il y a des maillons dans la chaîne qui font les jeux de l'ennemi, quel sort vous voulez leur réserver? Lorsqu'un malin fait les jeux de l'ennemi, vous avez une dizaine, une trentaine, une cinquantaine de morts, 1000, 2000, 3000 déplacés, parce que quelqu'un à un point A n'a pas fait le travail qu'il devait faire comme il devait le faire. Qu'est-ce que vous faites? Donc il faut considérer que c'est une... On a levé les moratoires provisoirement, parce que nous avons des urgences qui nécessitent que nous puissions réhabiliter cette forme de sanction. Par la suite, nous allons, nous, comme le président de la République est très engagé démocratiquement à défendre nos valeurs, nous allons lever la peine de mort, il a dit. Il faut considérer que nous sommes dans une phase critique pour le devenir de notre nation, parce que finir cette guerre nous permettra de débloquer le potentiel du développement de notre pays, et face à cela, face à des gens qui tuent, face à des gens qui en deuillent, il n'y a peut-être pas d'autre choix que de passer par cette case-là.
Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, je vous remercie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Malheureusement, on n'a pas le temps de les lire toutes. Merci à ces nombreux auditeurs qui nous ont envoyé leurs préoccupations et questions.
Je vais réclamer mon mot de la fin, madame.
Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner votre mot de la fin, monsieur le ministre. Je remercie d'abord tous ces auditeurs. Ils étaient vraiment nombreux à nous suivre sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Capi et même sur la FM. Votre mot de la fin, Patrick?
Alors, le mot de la fin serait d'abord de dire merci, parce qu'il y a dans ce pays beaucoup de gens qui se sacrifient dans des contextes difficiles et vous êtes parmi. En tout cas, moi, mes intentions pour Radio Capi sont connues au terme du processus en cours, parce que je considère que le travail que vous faites doit continuer. Mais que par la suite, les problèmes de Congolais, nous les connaissons. Et beaucoup d'entre nous au gouvernement, je suis pas sûr que nous arrivons à dormir. Parce que justement, nous sommes dans une position des parents. Et lorsque nous entendons ces cris nous donnent beaucoup de peine. Et donc, nous faisons les meilleurs que nous pouvons en termes de sacrifice. Il y a d'autres secteurs où ça marche plutôt bien. Par exemple, dans les secteurs économiques, on parlait de la sixième revue. Au-delà de ce que les gens peuvent dire, détournement, corruption, mais pour atteindre ces niveaux jamais atteints, c'est une preuve éloquente du retour à la norme dans la gouvernance économique, une crédibilité de plus pour les pays, une opportunité pour le pays de mobiliser plus de ressources. Si je dois parler des 145 territoires, pour la première fois, Madame Kelly, depuis 1960, on investit à la base où se trouvent les Congolais. Nous sommes dans un processus où les financements ont été bouclés. Il n'y a aucun projet qui commencera qui ne se terminera pas. Aujourd'hui, nous sommes à 900 édifices. C'est pas assez parce que nous avons de besoins pour 100 millions d'habitants, mais il faut apprécier les efforts qui sont faits dans la gratuité, dans l'éducation. Ici, il faut considérer, il faut faire confiance au président de la République, il faut faire confiance à la nouvelle première ministre, parce que lorsque son équipe sera mise en place, elle va travailler pour consolider les acquis. Elles vont travailler d'ailleurs dans un contexte qui est déjà difficile, parce que nous avons encore cette guerre d'agression, mais nous sommes sûrs que nous pourrons y arriver. Et parce que nous avons tous des anges gardiens, il y a des anges gardiens qui nous protégeront.
Merci, monsieur le ministre. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Jonathan Fanani, Clément Chimanga, Donna Madimba, Mimi Kindou, Willem Lungiamba, Martin Sebujango a supervisé ce programme. Merci également à Amadou Ba, notre chef Radio Capi, qui nous a donné aussi des idées pour la préparation de cette émission. Merci, monsieur le ministre.
Elle n'a pas été tendre. Visiblement, vous n'avez donné la parole qu'à ceux qui avaient des questions pour critiquer.
Monsieur le ministre, je peux vous envoyer sur la page Facebook de Radio Capi et madame. La chaîne YouTube. Vous allez lire vous-même.
Mais vous savez,
les questions des internautes et même des auditeurs.
Vous savez, plus dur sont les questions, mieux c'est.
Les Congolais sont, je vais vous dire la vérité, les Congolais sont déçus quand même. Merci,
les Congolais veulent la guerre.
Monsieur le ministre, bonne soirée chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.